supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Tant de sujets de société à aborder. Comment voir le monde et la condition humaine, concrètement et au quotidien, sans se désespérer? Comment redécouvrir le côté positif de la vie? En l'abordant par la satire, comme le faisaient les guignols de l'info? Ah, mais c'est vrai. Vexé par les contenus, Vincent Bolloré les a assassinés. C'est la crise pour tout le monde. Enfin, presque. Tout ce qu'on sait, c'est que la position d'un gouvernement qui s'entête et n'écoute pas la voix du peuple mène à quoi? À la révolte. Normal. Beaucoup ont été dans la rue et beaucoup vont battre le pavé en cette fin de mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui, c'est reparti, chers auditeurs, pour quelques rappels historiques autour de notre Constitution, de nos droits et de la retraite. La Constitution française a été, depuis sa publication, modifiée à 24 reprises, soit par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à l'issue d'un référendum. Elle comporte actuellement 16 titres, 104 articles et un préambule. Ce préambule renvoie directement, explicitement, à trois autres textes fondamentaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, vous vous souvenez, la Révolution française. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Constitution donc de la 4e République, celle de l'après-guerre, et la Charte de l'environnement en 2004. Revenons sur le préambule de la Constitution de notre Constitution, qui mentionne l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale. Il a été rédigé au lendemain de la libération par le Conseil national de la Résistance, le CNR. Il énonce les principes politiques de nature économique et sociale et des principes régissant l'organisation des relations internationales. Le programme du Conseil national de la Résistance, intitulé « Les jours heureux », est un texte français adopté à l'unanimité par le Conseil national de la Résistance le 15 mars 1944. Il a inspiré les grandes réformes de la libération et juste, je vous en cite quelques-unes. Réforme de la fonction publique, premières ordonnances sur la sécurité sociale en 1945. Nationalisation de la Banque de France et des grandes banques de crédit, en 1945. Nationalisation du gaz et de l'électricité et des grandes compagnies d'assurance, en 1946. Loi des comités d'entreprise, création des charbonnages de France et nationalisation de toutes les houillères, en 1946. Loi des prestations familiales, en 1946. Loi sur les assurances vieillesse, en 1946. Ah ah, les assurances vieillesse. Outre Jean Moulin et ses deux collaborateurs, Pierre Meunier et Robert Chambeyron, il y aura les représentants des huit grands mouvements de résistance, puis ceux des deux grands syndicats d'avant-guerre, la CGT et la CFDT, les représentants des six principaux partis politiques de la Troisième République. Alors je ne donne pas le nom des représentants, mais je vous donne le nom des partis. Le Parti communiste, PCF, le SFIO, le Parti radical, le Parti démocrate populaire, dite démocratie chrétienne, la droite modérée et laïque, et enfin la Fédération républicaine, qui était une droite conservatrice et catholique. Juste un bémol sur ces belles avancées, figurez-vous. Dans le programme du CNR, le droit des votes et d'éligibilité des femmes n'était même pas prévu. Mais il y a eu la guerre. Et l'engagement des femmes durant la Seconde Guerre mondiale aura marqué le général de Gaulle et les politiques en général. Alors, ils nous accorderont l'égalité politique et économique et enfin le droit de vote le 21 avril 1944. Dans un article, donc de leur programme au CNR, ils précisent « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. » Merci messieurs. C'est Jean Moulin qui deviendra le premier président du CNR. Ce gouvernement provisoire choisira par la suite le général de Gaulle à la sortie de la guerre. Le 13 novembre 1945, le général de Gaulle forme son deuxième gouvernement. Il s'en est passé beaucoup de choses, hein. Donc, un deuxième gouvernement d'unité nationale. Il se caractérise par l'entrée de 5 communistes au gouvernement. Maurice Thorez, Ambroise Croizat, François Billoux, Marcel Paul et Charles Tillon. Je vais donner la source de mes informations parce que, bien sûr, je raccourcis énormément tout ça. Mais ce site, c'est fondationresistance.org. Là, vous pouvez aller le consulter et vous aurez des rappels historiques très intéressants. Car il est toujours bon de se rappeler l'histoire de notre pays. L'histoire nous apprend beaucoup sur chaque crise, ne l'oublions pas. Mais voilà où je veux en venir. Avant tout, à l'article 11 du préambule de la Constitution. Car il précise qu'il garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. En 2024, la Charte de l'environnement se rajoute à notre Constitution et consacre de nouveaux droits et devoirs, dits de troisième génération. Après les droits politiques et les droits économiques et sociaux, elle inscrit le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Elle consacre la notion de développement durable, des choix destinés à répondre aux besoins du présent qui ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Alors, une fois de plus, mes informations sont sur le site, tout simplement, du conseilconstitutionnel.gouv. En même temps, je vous rappelle qu'avant 1930, aucun employé du secteur privé ne bénéficie encore d'une pension de retraite. C'est là où je veux en venir, hein. De nombreuses démarches ont été entreprises par les organisations syndicales pour que le système actuel soit aussi bien structuré. Mais l'ancêtre de tous les régimes de retraite français est sans doute la Caisse des Invalides de la Marine Royale. Alors là, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui existe en France depuis le début des pensions de retraite. Donc, la Caisse des Invalides de la Marine Royale. Le ministre des Finances de Louis XIV, néanmoins Jean-Baptiste Colbert, a créé une pension de retraite pour les marins dès 1673. Ensuite, d'autres régimes de retraite ont été mis en place dans le même esprit pour des classes professionnelles particulières liées à l'État. Des lois spécifiques ont été promulguées sur les pensions militaires en 1831, les pensions civiles et des agents de l'État en 1853, sur la retraite des mineurs en 1894, puis la retraite des cheminots en 1909, et sur la retraite des ouvriers de l'État en 1928. Alors je crois que c'était M. Croizat qui avait mis en place cette retraite pour les ouvriers. D'ailleurs, ces catégories forment encore les régimes dits spéciaux. Jusqu'à présent, alors là, oui, je dis qu'il faut réviser sa copie parce que il y a encore, figurez-vous, des retraites qui sont rattachées à ces dates un peu mémorables des pensions, entre autres, bon, pour les pensions des militaires et pour certains agents de l'État. Bon, à revoir, hein, les cheminots. Mais là, je vous en reparlerai plus tard lorsque on va avancer dans le système, dans ce qu'on nous est promis pour les retraites. Avec la publication de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les cotisations versées par les actifs devaient désormais servir à payer immédiatement les pensions de retraite, tout en créant des droits pour leur future retraite. Le régime par répartition aîné à l'âge légal de départ en retraite, qui était à l'époque de 65 ans. Alors voilà, c'est donc ça, je pense que c'était Ambroise Croizat, enfin je pense que je suis assez sûre, Ambroise Croizat qui l'avait mis en place. Au fur et à mesure, la loi a instauré d'autres régimes d'assurance vieillesse pour les travailleurs non salariés, non agricoles, et cela en 1948. Il s'agit des artisans, des professionnels libéraux, des industriels et des commerçants. Puis arrive le régime des exploitants agricoles, créé par la loi du 10 juillet 1952 et géré par la Mutualité Sociale Agricole, la MSA. La promulgation de la loi Madelin en 1994 fait que les travailleurs non salariés peuvent capitaliser leur retraite à travers un contrat dit Madelin, bien sûr. Puis, le régime social des indépendants, dit le RSI, mis en place en 2006, qui regroupe les régimes d'assurance maladie des industriels, des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux, mais aussi les régimes d'assurance vieillesse des artisans, des commerçants. Donc, cette caisse, le RSI, qui a disparu, qui a rebasculé dans la sécurité sociale, a été des comptes plus que douteux, il me semble. C'est en 1982 que le président François Mitterrand a ramené l'âge de départ à la retraite à 60 ans, pour les assurés qui justifiaient d'une durée de cotisation de 37 ans et demi dans un ou plusieurs régimes de base. Là, nous allons rentrer donc dans toutes ces lois et dans leur évolution. En 2003, François Fillon a réalisé une réforme importante qui prévoit l'alignement de la durée de cotisation du secteur public sur celle du privé, qui est passée de 37 ans et demi à 40 ans. 2003, on passe à 40 ans. La réforme de retraite de 2010 a prévu le recul progressif de l'âge légal du départ de 60 ans à 62 ans et le recul progressif de l'âge du taux plein de 65 ans à 67 ans. Oh oh, ça veut dire qu'en 2010, on y était déjà, hein, ce projet de loi ? En 2014, la réforme par la gauche, dite la fameuse loi Touraine, nom de Marisol Touraine, Parti socialiste, ministre des Affaires sociales en poste à l'époque, elle prévoit l'allongement de la durée d'assurance minimale pour prétendre à une retraite à taux plein. Elle augmente progressivement les 166 trimestres demandés à 172 pour les assurés nés entre 1958 et 1972. Donc, je vais vous dire que la génération de 1973 devra donc avoir 172 trimestres, soit 43 ans de cotisation. Alors là, faites gaffe, car si vous faites des études et si vous avez du chômage, puisqu'on nous rappelle cette loi, et encore, on rallonge les trimestres et l'âge, donc si vous avez fait des études et si vous êtes ou si vous avez eu des périodes de chômage, eh bien, ce sera cuit pour votre retraite. Pauvre de vous. Pour vous consoler, les travailleurs soumis à des facteurs de pénibilité et qui remplissent certaines conditions, pourront obtenir, alors figurez-vous, des points depuis le 1er juillet 2015. Ces points cumulés pourront servir à passer à un travail complet, à un temps partiel, ou à abaisser l'âge de départ à la retraite, ou encore à bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle. Vous avez quand même un choix énorme pour pouvoir prétendre à votre retraite que vous cotisez, hein, on vous prélève quand même sur chaque mois, sur votre salaire, une cotisation. Bref, la réforme des retraites qui s'annonce ne prévoit pas de très bonnes avancées. L'ambition de l'exécutif est de repousser progressivement l'âge légal du départ à la retraite pour atteindre 65 ans d'ici 2031. Peut-être 67 ans pour quelques années de plus. Contre 62 ans à l'heure actuelle. Pour y parvenir, cet âge devrait être décalé de 4 mois chaque année à compter de l'été prochain. Sans compter sur l'allègement progressif de la durée de cotisation. En clair, dans ce cas de figure, il faudrait avoir travaillé donc les fameux 43 ans pour toucher pleinement sa retraite. Voilà, j'ai fait brièvement le tour de la question. Aujourd'hui, à nous de nous battre pour des vieux jours heureux. Attendons de voir et soyons dans la rue, car nous avons aussi notre mot à dire. Une petite pause avec Gauvin Serre et Anne Sylvestre et la chanson « Pas de retraite pour les artistes ».
Lumière éteinte, le buste droit, et ma bouche embrasse le micro. Je recommence autant de fois que deux amants qui s'aiment trop. Un premier rang, un dernier verre, le quotidien sans la routine. Je connais les tables à vin couverts et les montées d'adrénaline. De celles qui font qu'on entre en piste. Y'a pas de retraite pour les artistes.
Tant que les poings seront levés et que les mots auront du goût, qu'il me reste de quoi rêver, pourquoi ne pas rester debout? Toute ma vie, c'est des chansons, des émotions, plein les visages, du vin qui coule, des discussions, des anecdotes aux mille cépages qui rendent la route un peu moins triste. Y'a pas de retraite pour les artistes.
Qui rendent la route un peu moins triste. Y'a pas de retraite pour les artistes. J'ai le cœur à gauche et je crois que ça n'est pas fruit du hasard. J'ai à ma droite un piano droit. Ça équilibre quelque part.
Toute ma vie, c'est des chansons, des anonymes qui tapent des mains. Je ferai quoi de toute façon si je dois plier boutique demain?
Comme paysan sur son tracteur, y'a pas de retraite pour les chanteurs.
J'ai dans ma tête l'album photo de cette vie que je traverse. J'ai les souvenirs qui coulent à flot quand au dehors tombe l'averse.
Toute ma vie, c'est des refrains et des frissons à chaque seconde. Sûr que j'échangerai ça pour rien.
C'est le plus beau métier du monde. Et moi, je suis là, toujours heureux. Y'a pas de retraite pour les chanteuses. Et moi je suis là, toujours heureuse. Y'a pas de retraite pour la chanteuse.
Les riches peuvent échapper à la réforme, les pauvres non. Je voulais remercier Louis Saisy, membre également de notre association pour une constituante, de me laisser l'occasion de vous parler avec un peu plus de douceur de l'âge de ce départ à la retraite. Cette retraite, il couronne toute une vie de travail et constitue à ce titre un marqueur social important. Mais l'âge permettant d'accéder à la retraite est également porteur d'une forte charge émotionnelle car il constitue un conquis social important, et scelle aussi le pacte intergénérationnel dans notre système de retraite par répartition, où les actifs cotisent pour le paiement des pensions des retraités. Chaque travailleur ayant ainsi le sentiment fondé d'avoir lui-même joué son rôle par rapport à la génération précédente et en entendant à son tour que cette chaîne de solidarité intergénérationnelle se poursuive dans le temps et joue en sa faveur. Je finirai cette chronique par une question que nous nous posons, chers auditeurs. Si la solidarité n'est pas un mot creux ou vide, est-il interdit de penser qu'en ce qui concerne les retraites, un impôt de solidarité, ou en tout cas davantage proportionné à l'étendue de la réalité de telles richesses et fortunes, devrait être régulièrement prélevé de manière plus significative et enfin rationnelle sur ces grandes fortunes? La question est posée. À vous d'y réfléchir. Mais avant de vous laisser avec notre deuxième chanson, « Mon vieux » de Daniel Guichard, je voulais aussi rappeler une annonce qui est des assemblées cinétoyennes de Moissac, que jeudi 26 janvier à 19h30, il y aura un ciné-débat autour du nucléaire, avec un film « Retour à la normale ». Voilà, que faire lors d'un incident nucléaire? Nous sommes proches d'une centrale, celle de Golfech, donc la soirée sera intéressante et fort informative. À la semaine prochaine.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.